Session de théologie par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 26 août 1993, 11e conférence.
On m'a demandé, c'est votre désir, je crois, de pouvoir préciser l'adoration telle qu'un homme sans la révélation puisse la réaliser. Et puis l'adoration chrétienne, c'est un très beau sujet. Parce que le mystère de l'adoration, je crois qu'il faut aujourd'hui y penser très fort et surtout en vivre, mais quand même, quand on vit dans un monde de laïcité, il faut qu'on puisse rappeler, dans la mesure où on peut, et dans la mesure où ça peut être efficace, n'oubliez jamais ce petit conseil que donne Thomas d'Aquin, qui est extrêmement pratique et que je crois très vrai, que lorsqu'il s'agit de la correction fraternelle, il faut la faire dans la mesure où on pense que ce sera efficace. C'est pas du tout se débiner, mais c'est tout simplement ce qu'est la correction fraternelle. C'est un acte de miséricorde. Si on pense d'avance que ce sera complètement inefficace, c'est pas la peine de le faire. Ça augmente les oppositions. Oui, je crois que c'est très, très intelligent, ça. Dans une communauté, c'est un peu comme ça. Toute communauté, aussi bien le mariage que la communauté religieuse. Il y a un frère qui, par exemple, je prends dans la communauté religieuse, puisque c'est l'expérience que je peux avoir, un frère qui vous agace prodigieusement. Ça arrive toujours, ça. Puisque Dieu choisit bien. Alors, il fait que... Un frère qui vous... La petite Thérèse avait ça. Elle avait une petite sœur qui s'occuper de son chapelet, c'était agaçant possible. Faut-il lui dire, mon cher frère, écoutez, vraiment, on sait d'avance que ce sera complètement inefficace étant donné, autant qu'on peut savoir, qu'il est têtu comme une bourrique. Ça peut arriver, même en vie religieuse, il peut y avoir. Et dans le mariage aussi. C'est pas être trompé sur la personne de croire que celle qu'on a épousée, qui était charmante dans les fiançailles, et puis dès que la certitude est donnée, à ce moment-là, on montre son caractère. Et c'est comme dans la vie religieuse, à partir de la profession perpétuelle. On sait qu'on ne mettra pas à la porte. Alors les cornes poussent. Alors quand on est en face de quelqu'un qu'on sait que c'est tout à fait inefficace, il faut supporter. Il faut prier, supporter. C'est ça la grande charité et l'héroïsme de la charité. Il ne faut pas croire du tout qu'il faut tous les 15 jours régulièrement dire « Vous savez, ma sœur, puisque maintenant je passe chez les sœurs, ma sœur... » Vous êtes complètement assommante, vous assommez tout le monde. Quand on lui a dit 3 fois, c'est suffisant, et qu'elle continue, il suffit de le dire 4 fois pour qu'elle reste encore plus dans le sillage dans lequel elle est. C'est comme ça. Alors vous voyez, il faut être très attentif à la manière dont on exerce les vertus théologales. Quelquefois, fois, la grande charité, c'est de se taire. Mais on n'a pas le droit d'être complice. Quand on est dans un cercle ecclésiastique et qu'on dit certaines choses qui sont contraires à la doctrine de l'Église, se taire complètement, qui dit mot qu'on sent. Alors on doit être très très adroit. Il ne s'agit pas de s'opposer, il ne s'agit pas d'entrer dans des querelles, mais il s'agit d'être vrai. Tout chrétien est témoin de la vérité. Tout chrétien. Et donc si on dit des choses en face de nous-mêmes qui sont contraires à la vraie doctrine de l'Église, on le dit. Mais si on est en face de non-catholiques, vous voyez, je parlais du cercle ecclésiastique, donc tous doivent quand même, dans un monde catholique, accepter le Saint-Père. Ils devraient tous. Et s'ils commencent à combattre le pape vis-à-vis de telle ou telle chose, je crois qu'on a le devoir d'intervenir. De la manière la plus efficace qui soit, et la plus vraie qui soit. Si on est dans un monde de non-catholiques, un monde de laïcs, qui répète ce que les journaux peuvent dire sur telle ou telle chose que le pape a dit, si on sait que ce qui a été dit dans les journaux n'est pas vrai, on peut simplement dire, écoutez, ne vous fiez pas trop aux journaux, vous savez. Avant de parler comme ça, vous feriez bien de voir si c'est exact. Puis quelquefois, on est obligé de se taire. C'est pas une lâcheté, parce qu'on sait que si on parle, ce sera pire. Alors on se tait et on prie. Mais la prudence... La prudence intervient dans l'exercice de la charité fraternelle et de la miséricorde. Alors, quand il s'agit de l'adoration, comme on est dans un monde de laïcité, et en France, de laïcité très particulière, qui implique tout le temps une pique contre l'Église. C'est pas du tout... Vous voyez, laïcité en disant l'État est neutre, donc il laisse la liberté. C'est pas ça. La laïcité en France, c'est pas ça du tout. Elle est très souvent orientée. Je dis pas toujours, mais très souvent. On sait que ne rien dire aux enfants vis-à-vis de ce que représente le mystère de la création ou le problème de la création, c'est pas normal, puisque reconnaître que Dieu existe et reconnaître le Créateur fait partie des vérités qu'un homme a droit à recevoir. Puisqu'il est naturel à l'homme de découvrir l'existence du Créateur. Il est naturel à l'homme de comprendre qu'il a un devoir vis-à-vis de Dieu, de l'adorer. Je dis bien un devoir. Et donc, supprimer cela, systématiquement, de tout enseignement, c'est une injustice. Au point de vue humanitaire. Et vous comprenez que c'est très difficile d'aller contre, étant donné que ce mouvement est tellement ancré. Mais dans la mesure où on le peut, on lutte. Et dans la mesure où on sait que cette lutte, si on la fait le mieux possible et intelligente, pourra avoir certaines conséquences. Ce qui est sûr, c'est que il y a tous des degrés dans l'adoration. le premier degré le plus bas. Quelqu'un qui respecte les traditions religieuses, pas plus. Et avec sa conscience, il dit, il vaut mieux reconnaître ses traditions religieuses que les rejeter. Il vaut mieux prier Dieu et l'adorer, s'il existe. Parce que s'il n'existe pas, ça n'a pas d'importance. Et s'il existe, c'est important qu'on l'adore. Vous voyez, c'est une adoration qui implique un certain doute. On reste au niveau de l'opinion. Et on croit dans le Créateur. Et on l'adore. Si toi, Dieu, tu existes, si tu es mon Créateur, je reconnais que je suis entre tes mains. L'adoration de celui qui est convaincu de l'existence de Dieu par ses recherches humaines, philosophiques. Il sait que son âme est créée par Dieu. Il le reconnaît. Et il veut par le fait même adorer Dieu. Il le fait avec conviction, celui-là. Et pour que l'adoration soit vraie, il faut cette conviction. De savoir qu'on est petite créature de Dieu. Et que dans tout notre être, nous dépendons de Dieu. Et nous reconnaissons cela. Et l'acte d'adoration consiste à reconnaître cette dépendance radicale à l'égard de Dieu. Et aimer cette dépendance. L'acte d'adoration est un acte d'amour. Puisque c'est une remise de tout nous-mêmes entre les mains de Dieu. Vous voyez, si on est en état de lutte à l'égard du Créateur, on ne peut pas l'adorer. Il faut d'abord essayer de découvrir la vérité et comprendre que l'acte de création de la part de Dieu est un acte d'amour et un acte de sagesse. Dieu a créé mon âme par un amour immense. Incomparable, dans un acte de liberté, rien n'obligeait Dieu de créer mon âme. Il l'a fait par pur amour et dans une gratuité absolue et dans une sagesse aussi, dans une lumière de sagesse. Et c'est dans la lumière de cet acte créateur sur moi que j'adore. Et à partir de cet acte personnel d'adoration, j'adore et je peux adorer pour tous ceux qui n'adorent pas. Je peux adorer pour tous les hommes. Je peux remercier Dieu pour le monde qu'il a créé. Et c'est par mon adoration que les étoiles chantent Dieu, louent Dieu, et que les montagnes et les glaciers louent Dieu, comme dit le psaume. C'est par mon adoration, puisque j'ai fait tout remonter vers Dieu. Il y a là quelque chose de très grand et de très beau, et qui fait que celui qui fait ça reconnaît la dignité de la personne humaine et la grandeur de la personne humaine. Par l'âme créée immédiatement par Dieu, une âme spirituelle, qui essaie de rejoindre l'acte créateur de Dieu, cet acte d'amour, par l'amour qu'on reconnaît à Dieu, parce qu'il est mon créateur, par la révérence que j'ai à son égard, parce qu'il est tout-puissant. Et je reconnais qu'il m'a donné l'intelligence et la volonté pour remonter jusqu'à lui. Cet acte qui relève de la vertu de religion, ou si vous voulez, c'est plus exact de dire, cet acte dont le fruit premier et de faire que la vertu de religion, qui est une vertu acquise, qui est une vertu morale acquise, pousse, germe dans ma volonté. Nous devenons des êtres religieux. Tout homme doit devenir un être religieux. C'est-à-dire qu'il doit acquérir la vertu de religion. Elle n'est pas innée. Elle n'est pas infuse. Elle demande d'être acquise. Et sûrement que dans un monde comme le nôtre, où si peu adorent, c'est très important, dans une éducation qui veut être humaine, d'apprendre aux petits d'adorer. Et pour apprendre aux petits d'adorer, il faut adorer en même temps. Puisque c'est un acte pratique. Et dans l'adoration, c'est notre âme et notre corps qui adorent. Et c'est même par là qu'on reconnaît que notre corps est bon et que notre corps est aimé de Dieu. Et nous aide à adorer. Et le geste du corps, l'attitude du corps, aide à adorer. Et ça fait partie de l'adoration. Nous reconnaissons que nous sommes entièrement dépendants de Dieu. Et si notre corps est fatigué, si notre nous sommes blessés, nous offrons à Dieu cette souffrance dans l'adoration, en sachant que cette souffrance provient non pas de Dieu, mais que cette souffrance provient de l'orgueil des hommes. Et nous demandons, dans ce geste d'adoration, nous demandons à Dieu d'acquérir l'humilité. Je crois que la grande manière d'acquérir l'humilité, vous savez bien, cette vertu si difficile à acquérir, hein, dans un monde terriblement orgueilleux comme le nôtre. Cette vertu si difficile à acquérir commence à s'acquérir par l'adoration. Être vrai en face de Dieu. Être humble, petit, pauvre en face de Dieu. C'est plus facile d'acquérir l'humilité en face de Dieu que de l'acquérir en face du prochain. Tu restes en face du prochain, on ne peut pas l'adorer. Hein. On ne peut avoir que du respect vis-à-vis de lui. Et le respect implique un peu d'humilité, mais pas beaucoup. Tandis que l'adoration implique une humilité radicale. Et je crois que c'est très important au point de vue éducation, ça. Il ne faut pas humilier les gens en public. C'est très mauvais comme procédé d'éducation, ça. C'est très très mauvais, ça va se faire des répercussions après. Et on sait soi-même, hein. C'est pas commode d'encaisser une humiliation publique. Parce que quand même on a un peu de fierté, de noblesse en nous-mêmes, après tout, on n'est pas plus bête qu'un autre, hein. Et donc quand quelqu'un nous humilie parce qu'on a fait un faux pas, ben ça nous blesse. Et ça ne nous fait pas acquérir l'humilité. Tandis que l'adoration nous fait acquérir l'humilité. On s'efface devant Dieu. On se met à sa place en face de Dieu. On reconnaît que Dieu est tout. On le laisse passer devant. Et ça donne une certaine noblesse, l'adoration. Les êtres qui adorent, on sent très bien en eux une certaine noblesse. Parce qu'ils remontent à la source. Et ils sont en compagnie du Créateur par l'adoration. Et ils se laissent transformer par le Créateur. C'est pour ça que c'est grand. Et ça maintient une noblesse, l'adoration. La vraie noblesse, elle est là. Maintenant, je regarde cette vertu d'adoration, cette vertu de religion, transformée par la foi, l'espérance et la charité. Autrement dit, l'adoration du chrétien. Il faut adorer en esprit et en vérité, dit Jésus. Donc, il faut adorer à partir de l'amour, il faut adorer dans l'amour, et par là, on peut aller beaucoup plus loin dans la vérité. La charité, l'agapé, est source radicale pour l'adoration. On reconnaît d'une manière beaucoup plus profonde que Dieu est notre Créateur, qu'il a créé notre âme par pur amour, qu'il a créé notre âme dans sa lumière. Et par la charité, nous pouvons avoir une connaissance de l'adoration, de la création beaucoup plus profonde. Nous savons que actuellement, Dieu crée mon âme. Et si je prends conscience de cela, que Dieu actuellement crée mon âme. Si on n'avait jamais pris conscience de ça avant, et c'est tout d'un coup on dit, mais oui, c'est vrai, l'acte créateur de Dieu, en Dieu, il est éternel, donc il est actuel. Et je rejoins ce regard du Créateur sur moi dans la foi. Et je peux remercier Dieu de m'avoir créé mon âme gratuitement, d'avoir mis en moi ce titre de noblesse, de grandeur, d'être quelqu'un qui adore. Et j'adore à ce moment-là en jetant ma couronne, c'est-à-dire en reconnaissant ma petitesse en face de Dieu et ma pauvreté. Cet acte d'adoration, dans sa structure, il est le même. On reconnaît qu'on est totalement dépendant de Dieu. On reconnaît que l'acte créateur de Dieu est un acte libre d'amour et de gratuité. Mais la grande différence, c'est que mon acte d'adoration est porté par l'amour, par l'agapé. Et il incarne mon amour. La manière la plus radicale d'incarner mon amour pour Dieu, c'est de reconnaître que mon Dieu est mon Créateur, et donc de reconnaître pratiquement que je suis entièrement dépendant de Lui, et que j'ai tout reçu de Lui. Tout ce qui en moi est bon vient de Lui. La seule chose qui ne vient pas de Lui, c'est mon péché, sont mes bêtises, mais tout le reste vient de Lui. Et donc je lui porte tout et je lui remets tout. Ça, et là on touche la grandeur de l'acte d'adoration qui, grâce à l'amour, peut toucher l'éternité. Quand on adore de cette manière, on échappe à toute impatience. Ce qui est merveilleux. On est au-delà de ce que les anciens appelaient, n'est-ce pas, la roue dans laquelle on est, le cycle du temps. On échappe au temps. C'est vrai, celui qui adore en esprit, en vérité, est dans les mains de Dieu. il échappe au temps. Et allons plus loin. Celui qui adore en esprit et en vérité échappe à toutes les tentations du démon. Dès que j'adore en esprit et en vérité, je suis reclus en Dieu. C'est la clôture religieuse. Personne ne peut entrer. Le démon ne m'atteint plus. Il a perdu ma trace. Il perd ma trace dans la mesure où j'adore. Tandis que quand j'adore pas, il ne perd pas ma trace. Et il est le maître de mon imaginaire. Ce qui montre combien l'adoration, vous voyez, remet même son imagination à Dieu. Alors comprenez bien que psychologiquement, je n'aurais peut-être pas toujours conscience de la puissance d'un acte d'adoration en esprit en vérité, puisque c'est sous le souffle de l'Esprit Saint, et que c'est dans l'amour. Mais en toute vérité, j'échappe au démon. Il perd ma trace. C'est pour ça que quand on est très tenté, la seule manière, c'est d'adorer. On ne le fait pas assez. Aujourd'hui, on parle tout de suite de l'exorcisme. Mais non, il y a quelque chose de bien plus puissant, c'est d'adorer. Ça, je peux tout de suite. Je me demande si on ne parle pas tellement d'exorcisme parce qu'au fond, on n'adore plus. Vous voyez, lorsqu'on n'adore plus, on laisse le terrain vague et le démon s'en empare. C'est comme une terre qu'on ne cultive plus. Je me cultive en adorant. Je cultive ma petite terre qui est mon âme et mon corps. Et je deviens une bonne terre dès que j'adore. Et je me remets dans les mains de Dieu. Tandis que quand je n'adore plus, c'est une terre qu'on abandonne. Et une terre qu'on abandonne, vous savez bien, tout de suite les mauvaises herbes viennent. Faut pas longtemps. Tout de suite. Et immédiatement le démon s'en empare. Sans vous demander la permission, puisque vous l'avez abandonné. Et si on pouvait, on ne peut pas, mais si on pouvait voir comment l'acte d'adoration purifie radicalement tout notre être, tout nous-mêmes, on aimerait follement d'adorer. La douche spirituelle de tous les matins, de tous les soirs. Puisqu'on se met directement sous la lumière de Dieu. C'est une chose très très grande. Et je l'ai déjà dit à certains d'entre vous, l'Esprit Saint, un très saint homme qui était un abbé, pas très loin d'ici, il est mort maintenant, qui était un homme très conduit par l'Esprit Saint, je l'ai vu qu'une fois. Mais ça m'a suffi de voir que c'était vraiment un homme de Dieu. L'Esprit Saint lui a donné ce petit procédé pour labourer la terre, pour se sanctifier. 7 actes d'adoration par jour, c'est le bréviaire des pauvres. Vous pouvez tous faire 7 actes d'adoration par jour. Et c'est très très beau ça. Alors on creuse l'adoration. Vous voyez, c'est pas la première fois que vous ferez un acte d'adoration que ça ira très loin. Il y aura des gros cailloux énormes à soulever que vous n'arriverez pas à soulever. Mais petit à petit, tout est offert. tout élaboré. Allons plus loin. Nous pouvons-nous adorer en esprit et en vérité avec Jésus? Par lui, avec lui, en lui. Nous pouvons adorer par lui, nous pouvons adorer avec lui, nous pouvons adorer en lui. Il faut bien comprendre que l'âme du Christ et le corps de Jésus, c'est là le lieu par excellence de l'adoration. C'est le Saint des Saints. Naos, qui exprimait le Saint des Saints. Notre Saint des Saints, c'est le cœur blessé de la toute sa taille, parce qu'il est uni à l'adoration du Christ. Jésus est venu pour nous sauver, pour que nous adorions. Adorer avec Jésus et en Jésus, je crois que c'est le premier acte de salut. Et par là, le mystère du Sauveur prend possession de toute notre vie. Et si le Saint-Père reconnaît que la méta-tentation de notre monde d'aujourd'hui, c'est justement que l'homme oublie le Sauveur, j'ajoute, parce qu'il n'adore plus. Alors, on doit prendre conscience de cela et réparer. Ce sont nos frères. Et ce sont ceux avec qui nous vivons. Et donc, nous devons, dans un zèle missionnaire, adorer pour eux. Et dans un pays comme l'Afrique, il faut apprendre en premier lieu l'adoration. Dans tous les pays du monde, du reste, mais particulièrement les jeunes chrétientés. Et là où il y a encore beaucoup de paganisme, d'animisme, pour que le mystère chrétien pénètre dans toute sa pureté. Cette adoration en esprit, en vérité, donc faite avec Jésus, permet l'offrande avec Jésus de toute notre vie, de toutes nos activités, de tout nous-mêmes. Puisque l'adoration dans le Christ a été jusqu'à la croix. La croix, c'est l'acte d'adoration dernier de Jésus, où il s'offre lui-même en victime d'amour. Et c'est peut-être ce qui caractérise en dernier lieu l'adoration chrétienne, c'est qu'on est uni à la croix du Christ et on vit du mystère de la croix du Christ. Le mystère de la croix est un acte d'adoration en esprit et en vérité. C'est un acte d'adoration qui conduit à la contemplation. Puisque le propre de l'adoration chrétienne, sous le souffle de l'Esprit-Saint, c'est de nous conduire à la contemplation. Mais c'est la porte étroite par où on contemple. Par où on peut contempler pleinement. Je comprends très bien qu'on puisse vivre tout de suite dans une amitié avec le cœur du Christ. Mais ce qu'on n'a pas le droit, c'est de négliger systématiquement l'adoration. On peut très bien, sous le souffle de l'Esprit Saint, entrer tout de suite dans l'intimité avec le cœur du Christ. C'est très bien. Puisque l'adoration est ordonnée à ça. Donc vous avez le droit, tout de suite, de prendre ce terme. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'on peut dire l'adoration ne sert à rien. Pas du tout. Celui qui dit ça et qui prétend être contemplatif, je crois qu'il ne l'est pas. Parce que le contemplatif vit dans la vérité. Et la vérité pratique, première, fondamentale, qui nous met dans la vérité, c'est l'adoration. Quand vous adorez, vous êtes vrai. Quand vous parlez à votre voisin sur des sujets de critique, vous n'êtes pas vrai. Tandis qu'au contraire, quand vous adorez, vous êtes vrai. Il y a une proximité merveilleuse à ce moment-là entre notre cœur et le cœur de Jésus. Il bat à l'unisson. Et nous vivons alors à ce moment-là dans une très profonde unité avec Jésus. Entre ces deux adorations extrêmes, l'adoration en esprit et en vérité, l'adoration de celui qui est un païen, mais un bon païen, un philosophe, un Aristote. Et Aristote est un meilleur païen que Platon. Ça, il faut être très net là-dessus. Je dis ça parce qu'il a été beaucoup plus loin dans le regard sur Dieu. Il a compris que Dieu était l'acte pur, la contemplation de la contemplation. Tandis que Platon, c'est toujours un peu esthétisant, le bon en soi. Je crois qu'il y a une troisième forme d'adoration. Vous voyez, quand les musulmans adorent, et pour nous c'est important, je vous dis, c'est très important aujourd'hui de réfléchir sur cela, parce qu'il y a un brassage de vie religieuse, d'attitude religieuse, et il faut éduquer les jeunes, et nous éduquer nous-mêmes. Je comprends très bien que le Saint-Père puisse faire une réunion assise pour tous ceux qui reconnaissent un seul Dieu créateur. Mais il fait cela dans une attitude de charité fraternelle, sachant très bien que son adoration de chrétien unie à celle de Jésus et du cœur de Jésus n'est pas la même que celui du musulman. Quand le musulman adore, il adore avant tout la toute-puissance de Dieu. Il regarde plus la toute-puissance de Dieu que l'amour de Dieu. Et là, on voit qu'il y a une petite déviation. Ce n'est plus la véritable adoration. On adore le Tout-Puissant. Et on regarde avant tout qu'il est celui qui est notre maître absolu. Et en face de lui, on disparaît. Il n'y a pas la note d'amour. Ou elle peut exister, mais normalement, c'est la toute-puissance de Dieu. Toute-puissance d'Allah. C'est vrai que le Créateur est tout-puissant. Mais quelle est la note spéciale de l'acte créateur de Dieu? Est-ce que c'est la toute-puissance ou est-ce que c'est la gratuité de l'amour? la gratitude et l'amour avec la sagesse. La toute-puissance est au service de l'amour et de la lumière. Et elle n'est pas l'amour et la lumière. Donc là, il y a quelque chose de très important à souligner. C'est que l'acte créateur, l'acte d'adoration des musulmans n'atteint pas la même qualité divine, le même mystère de Dieu. C'est beaucoup mieux que rien, c'est sûr. C'est beaucoup plus digne que rien. C'est impressionnant, je me souviens, traversant les rues de Damas, au moment où, justement, le duo des synagogues, des mosquées, il y avait le chant de la prière, de voir que des hommes assis à leur comptoir, comme vendeurs, arrêtent, mettent leur petit tapis de prière, puis se mettent à plat ventre, à adorer. Et c'est grand, on peut dire tout ce qu'on veut. On aimerait que ça se fasse partout. Et c'est un point de contact, voyez. Même si quelquefois le dialogue avec les musulmans ne va pas très loin, ça dépend beaucoup desquels. On doit toujours essayer, par l'adoration, de maintenir un lien. Je vous disais il y a un instant, l'adoration, en esprit, en vérité, conduit à la contemplation. La contemplation, là encore, il faut distinguer la contemplation humaine qui existe, des philosophes, et pas toujours uniquement des philosophes, de l'homme qui adore. L'homme qui adore son créateur cherche à le contempler, à l'aimer. Puis il y a la contemplation du croyant. Et puis il y a la contemplation mystique du croyant. Je crois qu'on doit maintenir toujours les trois degrés différents. Autrement, on brouille tout. La contemplation du philosophe, il remonte jusqu'à l'être premier, le Créateur, ayant découvert son œuvre, ayant découvert le secret de son œuvre dans la création de l'homme et de la femme, puisque c'est dans l'homme et la femme, dans le cœur de l'homme et de la femme, que je puis découvrir le secret du Créateur. Vous comprenez bien que Dieu a créé l'univers pour l'homme et non pas l'homme pour l'univers. Et est-ce que ça aurait été encore objet de la sagesse de Dieu de créer un univers physique, même peut-être avec des petits animaux, sans la création de l'homme? Je ne crois pas du tout. Je crois que ça n'aurait pas été objet de sagesse. Donc bien, le secret, c'est l'homme. Le secret de la création, c'est l'homme. Parce que l'homme est chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre du Créateur. Et le chef-d'œuvre du Créateur, c'est la femme plus que l'homme. Second récit de la création. Elle a créé homme et femme, et selon le second récit, il a créé d'abord l'homme. Il l'a laissé dans une, dans une solitude difficile à porter. Il n'y avait personne avec qui il pouvait s'entendre. Voyez, Dieu a créé d'abord un creux dans l'homme, une privation, un manque, pour être sûr qu'il aime. Cette pédagogie divine merveilleuse. Hein. C'est pour ça que de temps en temps, quand des fiancés ne savent pas s'ils s'aiment mutuellement, on les sépare. Pendant un mois, on attend le premier qui crie vers l'autre. Et s'il ne crie pas du tout, ça prouve que ils ont trouvé l'un et l'autre une belle bibliothèque. Ils sont pas, il n'y a pas d'appel de l'un vers l'autre. Parce que si déjà dans les fiançailles, on se contente de la bibliothèque, que sera après ? Vous savez, c'est la même chose pour le moine, voyez ? Si le moine se contacte de la bibliothèque et qu'il ne va plus au cœur, son cœur petit à petit se rétrécit et sa tête augmente. Et alors à ce moment-là, il trouve nécessairement la vie commune horrible. La seule solitude supportable, c'est la bibliothèque. Bien comprendre que l'adoration conduit à regarder Dieu comme un père. Et le philosophe peut contempler Dieu comme père à partir des effets les plus parfaits de la création. À partir de sa recherche de la vérité et de sa recherche d'amour, d'amitié. Le chrétien qui adore en esprit, en vérité, comprend et sait que par les vertus théologales, il peut directement contempler Dieu dans la charité et dans la lumière de la foi et dans la force de l'espérance. Il faut être très fort pour contempler. Vous voyez, l'adoration nous met dans la solitude, une solitude où on est en présence de Dieu, une présence cachée. La contemplation nous met face à Dieu. Face à Dieu dans tout ce qu'il peut être, dans tout ce qu'il est. Vous allez dire, mais cette contemplation est impossible puisqu'elle est dans la foi. Et la foi implique une obscurité. Cette contemplation est possible parce que je sais que Dieu me voit. Qu'il me voit actuellement et que je fais partie de la contemplation de Dieu. Je fais partie de sa connaissance et de son amour. Si Dieu me voit, me connaît et que moi je remonte vers lui pour le connaître, je peux très bien le contempler sans le voir. Parce que je suis certain de sa présence aimante, lumineuse. Une contemplation parfaite implique le face-à-face. Donc implique qu'il y ait une coopération de l'un avec l'autre. Une contemplation imparfaite peut se contenter de celui qui est certain du regard de l'autre et que l'autre, lui, le voit dans toute sa splendeur. Ça qui permet la contemplation chrétienne. Et cette contemplation chrétienne, je peux en vivre. Vivre en présence de Dieu. Vivre de l'invisible comme s'il était visible. Ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux. Je vis de celui qui est visible, qui pourtant est invisible pour moi, comme s'il était connu par moi directement. Et cette contemplation peut prendre alors un mode mystique sous le souffle de l'Esprit-Saint. Grâce au don de sagesse. Le don de sagesse a ceci de très particulier qu'il me fait vivre de cette contemplation toute intime, toute personnelle. Même si je ne vois rien, je sais que j'ai la grâce et que Dieu est présent au plus intime de mon cœur, au plus intime de mon intelligence, au plus intime de mon esprit, qu'il est plus présent à moi-même que je ne suis présent à lui. Et je le sais, ça. Et je le sais dans l'obscurité de la foi, et je le sais dans la pauvreté de l'espérance. Il est là, et c'est suffisant pour l'aimer et le regarder, et d'être attiré par lui, et de vivre de son attraction. Vous voyez que la contemplation mystique, c'est ce vécu dans l'ordre de l'amour. Entre Dieu et moi, ce vécu de la très sainte Trinité, du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est ce vécu qui me met loin de tout, qui me sépare de tout, qui peut me séparer de tout, mais qui peut aussi m'unir à tout. Il y a les deux choses dans toute contemplation mystique. Il y a une séparation qui est l'effet de l'amour divin. Et il y a une intense unité qui est l'effet de l'amour divin. L'amour divin me communique un secret. Tout secret qui est le fruit de l'amour sépare et unit. C'est le propre de porter un secret. Le secret sépare de tout ce qui n'est pas celui qui nous a communiqué le secret. Et c'est farouche. Et le secret nous unit à celui qui nous a communiqué son secret. Vous voyez, mystère de séparation, mystère de présence, c'est bien ça la contemplation mystique. Dans l'amour, on est intimement lié à celui qui n'est qu'amour. Et dans cette enquête de vérité qui va aller jusqu'au bout, on veut vivre de cette unité avec celui qu'on aime. Je crois qu'il faut toujours bien saisir cette exigence propre de la contemplation mystique, de cette intimité, de cette unité avec Jésus dans l'Esprit Saint, sous le souffle de l'Esprit Saint. Et la séparation à l'égard de tout ce qui n'est pas l'Esprit Saint, tout ce qui n'est pas Dieu, devient de plus en plus grande. Puisqu'on ne se nourrit plus que de Dieu, que de la parole, que de l'Eucharistie, que de la volonté du Père. Et donc, toute cette connaissance humaine qu'on peut avoir, des choses humaines, tend à perdre son sens, sa valeur, pour qu'il ne reste plus que l'attraction profonde de Jésus et du Père. Quand je serai attiré à la croix, sur le bois, j'attirerai tout à moi. C'est une force d'attraction prodigieuse que Jésus exerce sur nous, sur chacun d'entre nous. C'est une force d'attraction. Et c'est le Père qui exerce cette même attraction. C'est cette contemplation qui me fait connaître le Père. Alors vous voyez bien qu'il y a deux connaissances du Père, ou si vous aimez mieux, trois connaissances du Père. Première connaissance du Père, la connaissance du Père, du philosophe qui contemple, de l'homme qui contemple uniquement par ses propres moyens, et qui est obligé de reconnaître que le Dieu créateur achève toute sa création dans la création de l'âme humaine. Et en tant qu'il crée l'âme humaine, il est le Père. Le Père divin, c'est sûr, mais il est le Père. Le Père créateur. Et au plan mystique, alors l'intimité est bien plus grande. Au plan de la révélation, disons d'abord au plan de la révélation, l'exercice tout simple de la foi, d'espérance et de la charité me font comprendre que Dieu est amour et qu'il est entièrement donné. Et que si je ne vois pas sa présence, cette présence est intime, au plus intime de moi-même. Dieu ne supprime pas dans cette contemplation mystique, dans cette contemplation chrétienne, Dieu ne supprime pas l'abîme qui existe entre le Créateur et la créature. Mais il réalise dans le cœur de la servante et du serviteur de Dieu, parce que dès que j'adore Dieu, je suis serviteur de Dieu. Dieu ne supprime pas cette distinction, mais il l'enveloppe, il la transforme, puisque la petite créature, transformée par la grâce, devient enfant de Dieu. Et c'est l'enfant de Dieu qui assume la nature humaine créée à la ressemblance de Dieu. Et donc, il y a un regard vers le Père qui est unique et que je peux volontairement, tout simplement en actuant ma foi, mon espérance et mon amour, rejoindre. Et quand j'essaie de le rejoindre en étant présent au Père, très souvent, l'Esprit Saint me fait passer de cette intimité acquise, mais divine, acquise quand à son mode, me fait passer à une intimité nouvelle, infuse, mystique, c'est-à-dire très cachée, très mystérieuse et ne dépendant plus de moi. Je ne peux pas, quand je veux, passer d'une contemplation théologale acquise à la contemplation mystique. je connaissais quelqu'un, dont je ne dis pas le nom, qui prétendait qu'il pouvait passer quand il voulait à cette contemplation mystique. Il y avait un fauteuil particulier qui était le fauteuil de sa contemplation mystique. Là, quand il m'a dit ça, j'ai eu un peu peur que c'était plus tout à fait vrai. Je comprends très bien qu'il puisse y avoir une tension intérieure de plus en plus grande dans cette contemplation acquise, dialogale. Elle est très belle, cette tension. Elle est très grande. Mais pour aller plus loin, il faut mourir à son mode humain pour que ce soit le mode divin qui nous introduise. Et à ce moment-là, si on n'échappe pas à son mode proprement humain, si on garde le désir de se gérer soi-même, se conduire soi-même, on n'entrera jamais dans la contemplation mystique. Il faut mourir à soi-même pour voir Dieu, pour entrer dans l'intimité avec Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui nous permet de mourir à nous-mêmes. Par nous-mêmes, serions incapables de le faire. Nous ne pourrions pas le faire. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de le faire, qui nous le fait. Et alors à ce moment-là, la relation avec le Père devient tout autre. C'est une relation toute divine, toute présence d'amour. Alors je crois que c'est cela qui nous fait comprendre comment Marie peut jouer un rôle dans cette contemplation mystique.